22 novembre. Bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous tout au long de l'émission et je suis accompagnée, bien entendu, de Jacques Gignac qui fait un merveilleux travail à la mise en onde. Aujourd'hui, comme à l'habitude, une heure assez chargée. On rencontre plusieurs personnes, notamment on va discuter avec Denis Pellerin, dont l'exposition œuvre récente qui est présentée chez la CERF vient tout juste de commencer. Également, Fanny Hénon-Lévy viendra en deuxième partie d'émission nous parler de la pièce Canada au Théâtre de l'Abordée. Donc, elle va aborder... Ça fait un peu répétitif. Elle va parler plutôt des qualités plastiques qu'on peut retrouver dans cette pièce-là. On fait aussi une discussion avec Richard Mille, qui a en ce moment deux expositions, donc qui présente ses travaux récents à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval et quelques petites sculptures au 36. Raymond Poirier nous a fait une défriche dans la presse.
Oui, notamment, en fait, il y a un jeune peintre du nom de Leonardo da Vinci qui a lancé une nouvelle œuvre qui est en vente présentement au coût de 200 millions. On parlait un peu de ça et d'autres choses.
Un jeune peintre.
Hein? Oui, tout nouveau, en fait.
Je suis toujours 500 ans. C'est quand même bien. Puis, pour nous parler de la sélection musicale aujourd'hui, on reçoit en studio Simon Roy. Bonjour, Simon.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Ben oui, ça fait du bien d'être en studio. C'est toujours au téléphone, d'habitude.
Ben oui, je suis tellement contente de te voir. J'avais oublié ce dont tu avais l'air. Presque.
Ben oui, Julie, ce soir, une petite sélection musicale déprimante, on va dire.
Oh, OK.
Oui, c'est un artiste belge du nom de Krang. C'est de la musique, c'est un genre de drôle de mélange. Il fait du collage de musique jazz, musique d'avant-garde, un peu de musique électronique avec tout ça. Donc, il brasse tout ça. On dirait que c'est un band complet, mais c'est seulement une personne qui... Donc, c'est ça, qui prend l'échantillonnage, qui fait différents collages à gauche et à droite. Puis, ça donne un résultat assez sombre quand même. L'album s'appelle Pléiade. C'est publié sur un label qui est défunt, qui s'appelait Phantom. Ça a été absorbé par Human Workshop. Maintenant, c'est un label qui est plutôt, qui vient des Pays-Bas, puis elle se spécialise, donne des coups de main pour les artistes, pour le montage audio, et donne des trucs, puis tout ça, puis ils publient ça sur leur étiquette. Donc, c'est ça, c'est Krang, comme je vous disais, un artiste belge. J'ai pas plus d'informations que ça à propos de l'artiste. Il évolue sous plusieurs noms, puis c'est un peu difficile de suivre la trace. Mais c'est un album, en tout cas, j'ai écouté à répétition, parfait pour écouter le soir, écouter en auto avec un petit peu de brouillard. C'est vraiment l'idéal.
Ou encore avec les premières journées froides de novembre qui annoncent l'hiver définitivement, comme aujourd'hui.
C'est ça qui m'a inspiré pas mal pour la sélection musicale de ce soir.
Et puis, on trouve ça sur Internet, j'imagine?
Oui, c'est ça.
Est-ce
ça va être...
Oui,
c'est gratuit encore une fois. Je réussis toujours à vous trouver des sélections gratuites. Ça va être disponible sur le blog de l'émission de l'aérospatiale. Donc, allez faire un tour pour aller télécharger tout ça. Ça vaut vraiment la peine.
Et puis, si on va entendre d'autres musiques gratuites, on a l'occasion de le faire dimanche soir.
Oui, toujours à mon émission Web Musique, à compter de 20h, toujours à l'antenne.
Bien, Simon Roy, merci beaucoup.
Merci.
On s'en met tout de suite en oreille. On écoute un extrait de la pièce Electra sur les ondes de CKRL.
Thank you.
Voilà, on vient d'entendre un extrait de la pièce Electra de Craig, tirée de l'album Pléiade, et je me tourne vers Raymond Poirier pour la revue de presse cette semaine. J'ai hâte d'entendre parler de ce jeune artiste.
Oui, ben en fait, je crée un petit suspense. C'est deux petites nouvelles Québec avant de se lancer vers jeune Léonard de Vinci. Premièrement, en fait, des félicitations, je pense, qui sont d'office vers le Musée national des beaux-arts du Québec pour leur catalogue Marc-Aurel Fortin, l'expérience de la couleur. Pourquoi? Parce qu'au 34e Salon du Livre de Montréal, il a obtenu le prix Marcel Couture. Et ça arrive quand même assez rarement là, qu'il y ait un catalogue d'exposition qui remporte un prix littéraire. Je pense que ça montre bien à quel point ce catalogue-là, justement, est bien fait, est bien construit, est bien bâti. Quelques éléments qu'on retrouvait du côté du jury soulignaient l'originalité, l'audace de l'ouvrage, la recherche minutieuse, le travail biographique de fond. Ils disaient que c'était un essai d'une grande pertinence. Ah ben voilà, en fait, j'ai presque envie de dire, avec Noël qui s'en vient, peut-être dans les suggestions cadeaux, donc ce catalogue d'exposition, qui a dû d'ailleurs être réimprimé. Et j'ai entendu qu'ils disaient, regardez, c'est un best-seller. Là. Dans le domaine des catalogues, on n'a jamais vu ça.
Ben, ça montre quand même qu'il y avait un manque vis-à-vis Marc-Aurel Fortin, c'est quand même une très bonne nouvelle.
Oui, et peut-être aussi ben, pour d'autres catalogues, on fera un peu le même type de démarche parce que ça montre qu'il y a un marché, qu'il y a une appréciation, qu'il y a un besoin. Alors, ce sera à suivre. Et également, le Musée national des beaux-arts qui risque bien de s'associer avec le Musée de la civilisation et aussi le Musée d'art contemporain de Montréal. L'idée est de regrouper les réserves de ces trois musées-là. Pour l'instant, fait exemple du côté du Musée de la civilisation, ben, les réserves sont à Vanier. À peu près 250 000 pièces muséales en tout genre. Donc, elle est bien remplie. La direction du musée dit, regardez, on commence un peu à se sentir à l'étroit. On voudrait avoir un peu plus d'espace. Alors, l'idée est de s'associer aux autres musées pour agrandir son hangar, pour créer également un centre d'études des collections, pour pouvoir y trouver, outre les œuvres, mais des fonds d'archives, des fonds d'archéologie, d'autres types de collections, accueillir des chercheurs, avoir un auditorium, donner des cours sur la conservation, la muséologie. Donc vraiment, pas nécessairement un espace muséologique, mais quand même pouvoir avoir une extension muséale dans ce secteur-là et pouvoir se donner d'autres outils pour explorer et mettre en valeur différemment les collections. Et bien entendu, l'idée aussi de s'associer différentes institutions comme ça, mais c'est pour aussi diminuer les coûts et augmenter le potentiel de partenaires éventuels. Alors, ce serait intéressant à suivre, bien entendu. Et donc, il y aurait possibilité d'avoir une nouvelle infrastructure le muséal qui naîtrait de tout ça, donc une grande réserve ici à Québec. On saute vers l'Amérique du Sud. Tiens, je regarde en suspens, je suis méchant.
Oui, hein, tu fais vraiment exprès, là.
Oui, un peu. En fait, petite nouvelle, puisqu'il y a un organisme, en fait, qui s'appelle artesour.org, qui veut, en fait, la description que j'ai retrouvée dans certaines dépêches de presse, veut devenir un peu le Facebook de l'art sud-américain.
Okay.
Il faut dire, en fait, que la réalité dans cette région-là est bien différente d'ici. Les frontières sont parfois peut-être un peu plus marquées, les différents politiques importants, des conflits aussi qui font que ces zones-là, à certains degrés, sont un peu moins stables que les pays d'Amérique du Nord. On n'a qu'à suivre l'actualité pour le voir.
Et donc, de faire voyager l'art aussi, j'imagine.
Oui, et de réseauter l'art même, tout simplement. Alors, c'est un groupe, Artesour, donc, qui s'est donné pour défi de regrouper 840 artistes, 170 commissaires d'exposition ou critiques d'art, 30 biennales ou festivals, 17 foires d'art, 160 galeries, 170 musées, 30 résidents d'artistes, donc, d'une vingtaine de pays d'Amérique centrale, du Mexique, des Caraïbes, donc, tout ce secteur-là, donc, de les regrouper dans une même plateforme. Pour l'instant, en fait, la très petite équipe, parce qu'ils sont deux pour l'instant, ont réussi à mettre en ligne 10% de cet objectif-là, mais ils sont en train de travailler et de développer aussi d'autres contacts à l'international pour pouvoir mettre en œuvre l'intégrale de ce projet-là, pour avoir éventuellement 3000 visuels qui seraient accessibles à tous, pour donner d'un côté une vitrine à l'art contemporain sud-américain, à l'art contemporain latin, si on peut dire, et parallèlement pour pouvoir permettre à ce réseau-là de se renforcer, de se réseauter un peu plus avant. Alors, ça serait intéressant à suivre. D'ici là, on peut voir ce qui a été fait arte-sur.org et bien entendu, tout ça comme les autres articles dont on traite qui sont disponibles aussi sur le blog de l'émission.
L'aérospatial.wordpress.com.
Voilà. Et Léonard de Vinci. Voilà, on y vient. On y vient, ce jeune artiste. En fait, c'est une peinture qui a été trouvée il y a quelques mois de ça. On en parle un peu plus.
Parlé, hein?
Et oui, je pense que oui, en fait. Et on en parle un peu plus parce que ben maintenant, elle est en vente. Le prix de départ est de 200 millions de dollars. Donc, pour mettre la main sur cette nouvelle toile qui s'appelle le Salvator Mundi, ou le Sauveur du Monde. Une peinture qui a été authentifiée de manière officielle.
Oui, c'est ça que j'avais demandé.
Et c'est effectivement, là, selon plusieurs groupements d'art, l'une des découvertes artistiques les plus importantes des 100 dernières années, évidemment.
Là. Est-ce qu'on peut la voir sur Internet? Est-ce qu'il y a des reproductions?
Oui, parfait. Ou... Même en fait, sur les articles, on a les photos et le reste. Là, donc, on peut facilement la voir. C'est une image qu'on décrit comme un peu glauque, un peu sombre, un peu troublante. Donc, du Christ qui porte dans ses mains une orbe de verre et qui fait une bénédiction avec l'autre et il regarde fixement la personne qui observe l'œuvre. Alors, c'est quand même une œuvre qui est loin d'être inintéressante. Peut-être une petite déception sur le fait qu'elle ne se retrouve pas dans un musée, mais qu'elle se retrouvera dans une collection privée.
Oui, bon, c'est vrai. Ça, c'est... Hein?
Je souligne tout simplement cette petite déception. Et en terminant, rapidement, en fait, je vous incite cette semaine à aller faire un tour sur le blog pour retracer cet article-là, parce que je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est que j'ai réalisé qu'on a beaucoup parlé dans les derniers mois de scandales avec l'Église, et il y a le journal Le Monde qui a fait un très beau dossier de 15 images qui ont choqué Dieu. Donc, des images publicitaires, de la presse et l'art. Et en art, on revient notamment sur certains dossiers dont on avait parlé, notamment ce Peace Christ d'Andrés Serrano en avril 2011. Il y a d'autres œuvres, des œuvres théâtrales, d'autres œuvres picturales également qui sont soulignées là-dedans. Donc, un très beau dossier qui nous montre finalement à quel point on continue de tenter peut-être un peu de censurer ou d'orienter l'art sur des bases religieuses, idéologiques ou dogmatiques. Alors, allez faire un tour sur le blog. Je rappelle l'adresse aérospatiale.wordpress.com.
Raymond, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Tu animes La vie en bébé ce vendredi. On attend qui?
Michel Robert-Piatti, vendredi.
Oh. Donc, à ne pas manquer, à compter de?
17h30.
Bien, merci beaucoup. Simon Roy, qu'est-ce qu'on écoute?
Ça va être la suite de l'album Pléiade de Krang. On écoute la pièce Alcyone 1.
Voilà, on vient d'entendre un extrait de la pièce Alcyone 1. C'est tiré de l'album Pléiade de l'artiste Craig, une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver tous les liens pour télécharger l'album sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, vous pouvez écouter l'émission en balado-diffusion, lire les communiqués aussi sur le monde de l'art. Bref, un site dynamique et très actif. Et j'accueille en studio Richard Mille qui nous présente deux expositions en même temps, soit travaux récents à la Galerie des arts visuels et quelques petites sculptures au 36. Bonjour, M. Mille.
Bonsoir.
Ça va bien?
Oui, merci.
Deux expositions en même temps, est-ce que c'était volontaire?
Oui, mais en fait, je devais exposer depuis longtemps aux arts visuels. Puis les dernières années, j'ai pensé réaliser des petites sculptures. Vous irez voir, c'est peut-être intriguant un peu. Mais l'occasion créant avec l'occasion d'exposer en même temps. C'est un truc un peu peut-être plus léger. Mais apparemment.
Au 36, ça, c'est plus léger? Ouais,
apparemment.
Est-ce que l'exposition au 36 se veut un peu comme une continuité ou on est vraiment dans une autre production complètement?
J'ai envie de dire oui puis non. C'est une continuité nécessaire parce qu'un artiste fait un peu toujours les mêmes préoccupations. Mais formellement, c'est très différent.
Oui, parce que...
Il y a ce qui est... Peut-être ce qui est... Le fil conducteur de mon œuvre, c'est l'idée de verticalité. Donc, ce sont deux sortes de travaux où l'aspect symbolique, j'oserais dire, est important.
Vous parlez de verticalité, c'est quelque chose qui vous inspire depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous amène?
Oui, mais dernièrement, je me suis aperçu que c'était quelque chose dans toute mon œuvre qui est depuis 40 ans maintenant, qui ressurgit tout le temps. C'est donc, la verticalité, c'est l'homme debout. Mais c'est la position debout, ce qui fait qu'on est différent de tous les autres êtres.
Oui, puis c'est comme la position dans l'espace aussi,
ça,
de l'homme.
Non, souvent, les tableaux étaient faits avec les mains trempées de peinture et puis les dégoulineurs dans le centre du tableau. Et puis l'impression des mains, l'impression du corps sur le tableau qui se fait maintenant d'une façon plus, entre guillemets, abstraite,
oui.
Peut-être par ces allusions mythologiques qu'on retrouve dans les grands tableaux.
Ben oui, parce que là, il y a écrit comme en typographie au pochoir, il y a Icar, il y a Dédale, il y a Nyx, notamment. Mm. Qu'est-ce qui vous amène justement à la mythologie?
Oh, je sais pas. Je pense que la mythologie, c'est le fondement de notre psyché.
Ouais.
Donc, depuis presque 10 ans, je travaille à partir de d'images comme ça. Je pense que c'est à vous, le spectateur, de voir ce qui se passe. T'sais, le premier a été un Narcisse.
OK.
C'est un dessin. Qui Narcisse, c'est en même temps, c'est le double, c'est le...
Mais ouais.
C'est donc, c'est les choses qui font penser, tout simplement.
Puis vos travaux, on les considère comme étant abstraits? Oui, il y a une certaine corrélation qui est intégrée justement avec des titres comme ça, puis souvent, bon, c'est...
C'est toujours abstrait, un tableau, dans le sens que ça montre une autre réalité. C'est un objet, mais en même temps, c'est très concret parce que c'est un objet. Donc, pour moi, c'est pas vraiment la question. Dans ceci, il y a effectivement des formes qu'on peut reconnaître. Il y a des profils féminins.
C'est ça, des profils, en fait, qui viennent briser un peu cette espèce de géométrie, du grand plan de couleurs avec les coulisses aussi. Ça vient intégrer comme la courbe aussi là, dans ce travail-là.
Ça, ouais. En fait, c'est peut-être avant, le corps était comme imprimé. Maintenant, pour ces tableaux-là, il est plus montré, tout simplement.
Montrer ou encore évoquer, parce qu'on peut aussi tout simplement voir la couleur, puis ne pas voir nécessairement le corps.
Il y a des gens qui ne voient pas les images.
Puis, bon, vous avez une palette de couleurs quand même, du rouge, du bleu, du gris, du vert aussi, qui se répètent hein, d'une œuvre à l'autre. C'est des couleurs que vous appréciez particulièrement pour leur richesse, pour leur profondeur.
Ben, pardon, excusez.
Il n'y a pas de problème à ça.
Le noir, ben, le noir ou les gris très foncés sont... C'est parce que ce qui est drôle, c'est que avec ces derniers tableaux-là qui ont tous été faits dans la dernière année, et, je retrouve d'une façon différente, mais l'esprit des tableaux des années 70, qui était très minimaux. Et, la question des couleurs, effectivement, c'est peut-être la première fois que j'utilise des couleurs dans des grandes surfaces comme ça. T'sais. Mais quand même, à part le rouge, les couleurs sont assez rabattues. C'est,
ouais.
Le vert est noir. C'est un vert que, d'ailleurs, ça m'a pris, je pense, 2 semaines de décider lequel vert allait avec ce noir-là. T'sais.
Pour choisir vraiment la teinte parfaite. J'ai observé, en fait, bon, à la galerie Le 36, vous présentez des sculptures, des assemblages, en fait, que vous faites à partir d'objets trouvés, mais également vous en intégrez à la galerie des arts visuels. Ouais. C'est une manière pour vous de prolonger l'œuvre en dehors de son cadre?
Ben, j'ai fait ça souvent dans mon œuvre, des objets qui s'intègrent au tableau. T'sais. Souvent, ce sont des objets trouvés au hasard. Un des premiers, c'était une figure de poupe d'une goélette que j'ai ramenée du bas du fleuve. Puis, en arrivant à l'atelier, je me suis aperçu qu'il était de la largeur exacte de mon tableau. Donc, de la toile que j'étais en train de faire, donc je me suis dit, mais là, il faut qu'il y aille là. Donc, ça m'a amené à mettre cet objet-là. Puis, la genèse des sculptures, c'est que j'avais chez moi une colonne qui est un ancien poteau de galerie.
OK.
Puis, j'étais intégré à l'architecture. Puis, quand j'ai défait cette architecture-là, je l'avais dans les mains, je savais pas trop quoi faire avec. Puis, je me suis aperçu qu'elle entrait exactement dans un H-beam, je ne connais pas le mot français, mais qui est une poutre en forme de hache en métal.
OK.
Donc, ça m'a fait penser de faire des faux H-beam en contreplaqué. Puis là, j'avais dans ma maison de campagne une autre colonne comme ça que j'ai décidé de peindre, de peinturer littéralement en bleu cobalt. Hein. C'est une sorte de blasphème par rapport aux vieux objets.
Ben oui, souvent, on essaie au contraire d'aller chercher du bois.
Ben justement, pour l'abstraire aussi. Ça, au vernissage, j'étais surpris que les gens s'intéressent plus, notamment dans celui où il y a une lampe de drapeau,
ouais.
À l'aspect antique. Moi, je voyais plus l'aspect, je ne sais pas, vaguement symbolique, où un objet nous amène à penser, peut-être pour d'autres à rêver. Tu vois, la verticale avec les fils à plomb, les pendules, c'est un autre objet que j'ai souvent utilisé. J'ai même déjà fait des tableaux qui étaient uniquement faits de fils à plomb.
Mais en fait, ça réfère beaucoup au passage du temps. À la vie, c'est ce que ça m'a évoqué, en fait, en regardant au 36, de voir ces objets-là qui ont un vécu, qui sont dénués de leur contexte, qui deviennent, on les observe pour ce qu'ils sont et non pour leur fonction également.
Mmh. Effectivement, probablement que l'histoire est importante aussi dans ce qui se passe. Là, ça. Moi, c'est les objets que je ramasse quand je m'usarde le samedi matin dans les marchés aux puces.
Puis qu'est-ce qui vous a guidé justement dans le choix des objets que vous avez décidé d'intégrer dans des œuvres?
Ben, c'est l'objet qui a une portée. J'aime pas le mot symbolique parce que le symbole se rapporte toujours à quelque chose de très précis, mais une sorte de symbole ouvert, si tu veux, où l'objet, comme je disais, nous fait penser, nous ramène à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand, j'espère.
Puis, peut-être dernière question, en fait, parce que, bon, je reviens à la question de la mythologie. J'ai une formation en histoire de l'art, donc c'est certain que pour moi, c'est quand même frappant de voir, justement, bon, l'intégration des mots, en fait. Bon, je disais Icare, Dédale, Nyx, mais il y a aussi des termes qui sont plus relatifs à l'Antiquité classique. Je pense Calipé, dans l'exposition. Mais il y a Cariatide. Est-ce que vous avez une réflexion sur l'histoire de l'art de manière plus générale? Vous positionnez votre travail à l'intérieur de cette continuité-là? Ou c'est vraiment ça inspire?
C'est tous des clins d'œil, je pense. Pour moi, c'est des. Ben vous utilisez le mot inspiration. C'est des mots qui me donnent une idée pour commencer un tableau. Il y a cette référence-là, bien sûr, qui demeure par rapport à ce qui est imprimé là.
Puis en même temps, ça m'a frappé. En fait, j'ai vu, bon, Cariatide, on voit quand même le profil d'une femme sur le grand tableau, mais également à côté, vous avez mis des photos comme pour évoquer la cariatide aussi.
Bon, en fait, c'est ça. C'est des objets que souvent que j'avais dans ma cave. Puis que je. La colonne est survenue, j'ai envie de dire, quelquefois dans mon œuvre. C'est des colonnes que je construisais en contreplaqué ou quand je fais des petits croches par la sculpture, j'utilise souvent cet objet-là. Donc, ce qui s'intègre au tableau, mais c'est comme juste naturel.
Ben, Richard Mille, merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Donc, on peut voir vos deux expositions, travaux récents à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval jusqu'au 18 décembre et quelques petites sculptures au 36 jusqu'au 11 décembre. Précision, le 36, c'est pas ouvert du mercredi au dimanche, mais bien le vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h.
C'est le 36 de la rue Couillard.
Oui, 36 rue Couillard, effectivement. C'est assez simple. Il ne faut pas voir une grosse enseigne. Il ne faut pas s'attendre, à une grosse enseigne. On s'en va en pause. De l'autre côté, on discute avec Fanny Hénon-Lévy sur les ondes de CKRL.
Le 25 novembre, participez à la Fête de la solidarité. Une soirée cabaret organisée par le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec au profit de la défense collective des droits. Venez déguster un souper chili préparé par le Café Babylone et danser avec nos invités, Zygmunt Bums, Flavia Nascimento, Stéphane Robitaille et Ja Nai. Vendredi 25 novembre à partir de 17h30 au Centre Horizon. 801 4e rue dans Limoilou, entrée 10$. Informez-vous sur sgpq.org, 418-529-4407. La fête de la solidarité est rendue possible grâce à la Caisse d'économie solidaire, le Café Babylone, la Boîte à pain, Michel Yacoub, Agnès Maltais, la coopérative La Mauve, la Ville de Québec et CKRL. Du 24 au 27 décembre au Studio P, Le Chemin qui marche présente Les Métamorphoses d'Adalbert. Spectacle d'objets, de marionnettes et d'ombres pour toute la famille.
Entourant les représentations, Espace Art Nature vous invite à assister à des rencontres riches de sens. Causeries sur l'inattendu, table ronde sur la beauté, atelier sur l'art de raconter une histoire.
Pour tout savoir, lestudiop.com. Le Studio P, art et littérature en scène. Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science. Le tout vulgarisé est présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30. Seulement au 89.1. This is Tic-Tac-Toe. Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par G. Chumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Try it now. CKRL 89.1. Cultive tes goûts.
18h précisément, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale. Julie Gagné toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Avant d'entamer plus avant cette deuxième demi-heure, je vous invite à nous écrire, aller sur le site de l'aérospatiale.wordpress.com pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en a, si vous avez raté une émission, une entrevue que vous avez envie de réécouter ou encore une chronique. Si vous avez envie également de télécharger les suggestions musicales de Simon Roy, ben c'est facilement accessible. Également, l'aérospatiale est sur Facebook, donc si vous voulez suivre un peu nos actualités de manière un peu plus simple et plus quotidienne, ben allez-y, l'aérospatiale est sur Facebook, ça se trouve aisément. Sur ce, j'accueille Fanny Hénon-Lévy. Bonjour Fanny.
Bonsoir Julie.
Ça va bien?
Ça va bien et toi?
Oui, t'es allée au théâtre dernièrement?
J'ai été voir Canata, Histoire renversée, première partie. Alors, Canata, c'est une belle découverte, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Canata, c'est à la fois une découverte théâtrale poétique, créative. Je vais parler de l'aspect plastique, de la mise en scène et de la scénographie. Et c'est surtout une parenthèse réflexive, une réflexion sur l'identité du peuple canadien, la culture, ses racines. Évidemment, c'est l'histoire du Canada, des Premières Nations, et notre héritage amérindien. Par les marionnettes. Donc c'est tout un show. Le point de vue en deux mots, il y a deux points de vue. On a un point de vue de marionnettes animales, donc qui sont le castor et loup bleu. Donc le castor, c'est quand même une symbolique canadienne forte.
Il va y en arriver aussi des choses à castor.
Voilà, qui a quand même une histoire très ancrée dans le pays avec sa fourrure qui s'est vendue cher. Et l'a fait disparaître pas mal. Et loup bleu, on le sait, c'est Antoine Laprise et Jacques Laroche qui se disent les loups bleus, donc de la compagnie du sous-marin jaune, qui ont mis en scène Canata et qui aussi ont assisté Frédéric Messier au texte, à l'écriture du texte. Et l'autre point de vue, donc, c'est les multiples personnages et figures amérindiens, dans le fond, qui marquent l'histoire des Premières Nations. Donc, on a une mise en scène et une scénographie qui est vraiment, vraiment intéressante. Donc, on parle de marionnettes, on parle d'animaux empaillés, on parle de masques à taille réelle sur le fond de la scène, qui ensuite seront utilisés par les acteurs, en tout cas par les acteurs qui animent toutes ces marionnettes et tous ces masques.
C'est ça, c'est des acteurs aussi. Moi, je me rappelle en avoir vu une des femmes qui jouait dans autre chose.
C'est ça, c'est que des acteurs qui ont dit une diction parfaite et qui s'effacent pour laisser place à ces marionnettes, dans le fond. Alors, évidemment, là, on ne peut pas passer à côté des grands panneaux en bois horizontaux qui sont déplaçables et modulables avec de multiples inventions, des très belles trouvailles, une fabrication un peu artisanale entre l'artisanat et l'artistique. Mmh. C'est sûr qu'on est habitué à la marionnette pour la compagnie du sous-marin jaune. Mais là, je trouve qu'on flirte un peu avec un spectacle pour enfants et des propos philosophiques qui sont quand même forts, à savoir la quête d'identité du peuple canadien, l'histoire du pays, et pas n'importe quelle histoire, une histoire renversée. Renversée pourquoi ? Parce que la narration se fait par la faune, par ces animaux-là qui ont un regard un peu extérieur, et par le peuple amérindien qui, lui, le rappelons-le, est-ce que c'est nécessaire de le rappeler, c'est quand même fait exterminer des millions de morts, bon, en tout cas. Donc, pour revenir à la mise en scène et à la scénographie, on a aussi la présence d'un dans une espèce de rond de c'est un écran rond qui est placé au centre de la scène un peu en hauteur sur lequel est projeté des images de nature. C'est pas projeté en continu, c'est ponctuellement, ça rythme un peu la pièce. Donc on a des images de nature avec une trame sonore qui elle aussi a été prise en pleine nature, et à ces images là se superposent les images en direct d'une caméra corbeau.
Ben oui, c'est ça.
Donc une superposition d'images. Donc du coup, on a la projection de ces marionnettes en pleine nature. On a la projection de ces personnages-là en pleine nature. En tout cas, c'est comme des détails. C'est comme
parce que c'est des plans très serrés là. Habituellement, là, ce qu'on voit là dans l'écran, puis on voit justement ces petites marionnettes-là, mais dans des plans vraiment serrés.
C'est ça. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette vidéo-là, elle sert vraiment la pièce. C'est-à-dire que c'est pas du tout un chichi, c'est pas du tout une pièce rapportée pour mettre de la technologie au sein de ce spectacle-là. Je trouve qu'elle a quelque chose de l'œil ouvert, du zoom. Elle va symboliser la mémoire aussi, la mémoire de ce qu'est la nature, la luxure de la nature, la simplicité, l'authenticité, cette authenticité dans laquelle vivaient les Amérindiens. Mmh. Donc elle va vraiment servir ce rappel de comment on vivait, c'était quoi nos sociétés, c'était quoi nos racines. Donc ça c'est pour je brosse un peu rapidement la mise en scène et la scénographie.
Oui, parce qu'il y a tellement de détails.
Il y a plein de détails.
C'est incroyable.
Il y a même à un moment donné une mise en abîme que j'ai trouvé très belle. On a vraiment un petit théâtre dans le théâtre avec ces panneaux en bois horizontaux qui sont à la fois des maps monde, mais à la fois qui se déplacent et qui s'ouvrent parfois.
Qui sont des décors.
Qui sont des décors, qui sont des boîtes, qui sont des il y a toutes sortes d'impressions que chaque boîte tournée ou chaque panneau tourné va recèle son secret. Donc c'est vraiment, on est surpris en permanence pendant ce show-là. Et c'est ça aussi, moi, qui m'a séduit énormément. Évidemment, on peut pas passer, en tout cas, moi, pour moi, c'est une référence, il y a aussi une référence à l'art naïf. Je pense qu'ils y font pas référence directement, mais l'art naïf qui apparaît au 19e siècle. Bon, moi, je pense à Douanier Rousseau, je pense au courant artistique qui est apparu en Haïti, mais ouais. Évidemment, les Amérindiens aussi créer, on parle d'art naïf aussi pour tous ces Premières Nations, pour l'art africain, on parle d'art naïf, d'art primitif, c'est rentré un peu dans les termes péjoratifs, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'appelait au départ. Et j'ai trouvé une citation de Malraux sur la naïf que je trouve assez chouette, qu'il disait à propos des peintres naïfs. Il disait il existe pour qui sait y voir, respirer et entendre, un paradis quotidien, un âge d'or avec ses fruits, ses parfums, ses musiques. Et je me permets de citer Malraux là dans ce cas précis, parce que je trouve que ça colle parfaitement et au propos de la pièce qui est philosophique, et à la mise en scène qui est aussi, elle, naïve et qui, je trouve, sert parfaitement ce propos-là, c'est-à-dire que, retournons à des choses simples, on peut dire les choses avec des petits objets fabriqués, avec plein de trouvailles, les oiseaux empaillés qui vont, eux, être aussi un élément de mise en scène, toutes les petits bouts de paille, les petites choses, en tout cas, ça c'est vraiment une pièce que je conseille d'aller voir, d'une part parce que ça va nous projeter dans une simplicité, dans ça nous fait voyager et dans l'histoire et dans notre propre histoire,
ouais,
même
ouais.
Si moi je suis française, ça doit s'entendre quand même, mais ça va quand même chercher, c'est quand même vraiment venu me chercher, parce que ces Premières Nations là, elles symbolisent la perte de ce qui est devenu notre... En tout cas, notre société a perdu beaucoup de cette authenticité-là. Et je trouve qu'on C'est bien retransmis par la mise en scène et la scénographie.
Puis en même temps, moi, c'est sûr que là, on est dans le propos, mais ce que j'ai apprécié, c'est d'entendre toi souvent quand on porte un regard sur les Amérindiens, c'est sur la tradition, c'est sur bon, la culture, les rituels, tout ça. Et là, c'est vraiment comme quotidien, et c'est des petites scènes quotidiennes aussi qu'on voit au travers de ces marionnettes-là, dans des contextes qui sont plus ou moins positifs ou graves, ou plus ou moins historiques également. Puis ça, ça amène un côté justement rafraîchissant à la pièce.
Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois très rafraîchissant et à la fois très grave.
Ouais.
Parce qu'on a un propos quand même social et politique qui va quand même bon on est dans un contexte où on se pose des questions, où on s'interroge sur notre ultra communication, notre vie qui va à mille à l'heure, et aussi sur la place de des choses simples et du retour à l'authenticité dans notre quotidien. Donc c'est, je trouve que ça vient nous recentrer.
Ça fait du bien finalement.
Ça fait du bien.
Eh bien, Fanny, merci beaucoup.
Merci à toi,
Julie. La pièce, on peut aller la voir jusqu'au 26 novembre. C'est au Théâtre de la Bordée.
De la Bordée, oui.
Sur la rue Saint-Joseph. Fanny, on se revoit dans un peu moins d'un mois. Là, je pense que tu as un spectacle de danse
dont
tu vas nous parler.
Oui.
C'est bon. D'ici là, porte-toi bien.
Merci.
Et nous, on s'en va en pause audio. On écoute la pièce Astérop sur les ondes de CKRL. Alors voilà, c'était un extrait de Astérop de Craigne, l'artiste belge que nous propose Simon Roy pour l'émission d'aujourd'hui. Et on était dans le monde du théâtre. Mon Dieu, j'ajoute des lettres à des mots. On était dans le monde du théâtre. On revient dans le monde des arts visuels, plus spécifiquement de la peinture et du collage, pour discuter avec Denis Pellerin au sujet de son œuvre récente. Bonjour.
Oui, bonsoir.
Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Ça va très bien, quoique c'est novembre et c'est légèrement frisqué, à tout le moins ici à Québec.
Ben, Montréal, c'est sûr. Alors, on est bien ici.
Bon, vous êtes vraiment chanceux, donc. vous présentez en ce moment chez La Certe vos œuvres récentes. Est-ce que vous diriez que vous faites de la peinture ou que vous faites du collage?
Pour ce qui est de ces œuvres, en fait, depuis 25 ans, je fais du collage. Presque exclusivement, mais ces œuvres en particulier et d'autres antérieures, c'est des peintures collages.
Puis comment vous fonctionnez, hein? Parce que là, on va le dire, c'est comme des languettes de peinture qui sont collées, accumulées sur la surface. Comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est vous qui peignez sur des toiles, qui faites des effets, puis après vous découpez?
C'est un peu ça au départ. Disons que je travaille beaucoup avec... des matériaux dont j'essaie de faire ressortir une certaine facture, c'est-à-dire que tout ce qui est craquement, froissement, je triture les matériaux alors et ensuite je compose avec les fragments de toile et tout ça pour faire le type de tableau que vous avez vu, j'imagine.
Oui, je les ai vus. Est-ce que vous, parce que là, on voit, il y a énormément de languettes, il y a beaucoup de travail là-dedans. J'imagine que vous avez un côté quand même collectionneur là, pour ramasser toutes ces toiles-là, ou des fois c'est sur du bois, ou tout ça. Vous non, en avez une grosse collection.
En perpétuelle mouvance, c'est-à-dire que je fais des tableaux de plus grande dimension. Et comme je dois coller, arracher et recouper et tout ça, les matériaux qui sont à côté, c'est-à-dire que je récupère les débris, si vous voulez, et je continue à travailler avec tout ce qui traîne dans l'atelier. C'est un fouillis perpétuel.
Ah ouais, donc il n'y a pas de méthode de classement, des teintes de rose plus par là, ou des textures, ou tout ça?
Donc, non, j'essaie de créer un climat de organique, disons, à la base.
Ou de caverne d'Ali Baba aussi.
Pardon?
J'ai dit de caverne d'Ali Baba aussi, où donc il y a toutes sortes de choses, puis on peut s'émerveiller.
C'est exclusivement de la toile, de la couleur, des matériaux. Et je travaille aussi avec des matériaux qu'on dit peu nobles, c'est-à-dire ça peut être, cette fois-ci c'est de la toile, mais ça peut être du carton, du papier, de la tôle. J'essaie de pousser à fond les limites de chaque matériau.
Oui, puis en même temps, vous leur donnez comme peut-être une nouvelle dignité également?
Ben, une fois l'assemblage fait, j'essaie d'associer une métaphore poétique. En l'occurrence, ici, c'est les jardins des errances ou les titres que je leur donne, c'est surtout des métaphores.
Des métaphores de vos expériences ou de ce que ça vous
non,
inspire?
Non, des métaphores qui impliquent le processus de création.
OK.
Alors, le jardin, pour moi, c'est une très bonne métaphore pour le processus de création et je l'emploie assez souvent dans mes œuvres. Ça incite à... C'est pour suggérer le perpétuel renouvellement dans la même matière, si vous voulez.
Ben oui, puis la récolte aussi et tout ça.
C'est ça, des choses comme ça, oui.
Bon, en observant votre travail, j'ai constaté une chose, en fait, c'est que les languettes de toile sur les collages sont toujours verticales. Qu'est-ce qui vous amène à mettre l'accent justement sur la verticalité?
C'est un type de composition qui m'obsède depuis quelques années et peut-être que c'est dû au fait que quand on coupe et qu'on déchire, c'est le plus souvent vertical. Alors, j'essaie de préserver cette fragilité du matériau pendant l'assemblage aussi, alors pendant la composition. Alors, c'est ce qui donne ces compositions latérales.
Puis vous travaillez aussi parce que vous disiez, bon, vous commencez par des grands formats, mais là, on a quand même une bonne variété de formats chez la CERT.
Oui, en fait, le plus grand format, c'est une œuvre qui date de 2009. J'aime bien aussi, dans chaque expo, introduire une ou deux œuvres de l'exposition précédente pour montrer la filiation, si vous voulez.
La progression également.
Aussi, oui.
Il y a une série, en fait, qui est vraiment de plus petit format. Je pense qu'elle s'appelle Prospection, si je ne me trompe pas.
Oui, ça, c'est avant les jardins des errances.
Mais ça, j'imagine que ça doit se travailler différemment. Si vous dites que vous travaillez grand format en premier, là, de travailler dans des formats plus petits comme ça, est-ce que ça fait pour vous une grosse différence?
Non, pas du tout, parce que j'ai de tout temps travaillé différents formats. J'aime bien, parce que les grands tableaux demandent un certain temps de repos, étant donné que je mets beaucoup de matière. Alors, certains tableaux doivent être mis de côté pendant un certain temps, le temps d'un séchage assez long, disons, dans le processus, et puis pendant ce temps-là, je peux continuer à travailler avec la même matière, mais dans des espaces plus restreints.
OK, donc ça permet d'avoir plus d'efficacité, de rester dedans aussi également.
Ben, pour voir, parce que la que ce soit le dessin ou la peinture ou les collages, la problématique est un peu la même souvent, c'est que dépendamment du format, on n'a pas la même relation à la matière, et puis j'essaie de voir par différents formats quels seront les effets, quels seront la relation avec l'espace.
D'ailleurs, bon, vous parlez de relation avec l'espace, on est presque près du bas-relief avec un travail comme ça.
Oui, il y a beaucoup de relief dans ces pièces-là, effectivement, parce qu'il y a une accumulation. Le collage permet justement non seulement la juxtaposition, mais la superposition d'éléments. Alors, j'exploite toutes les avenues qui me sont possibles d'exploiter.
Puis en même temps, j'imagine, parce que vous parlez justement, il y a la juxtaposition, effectivement, mais il y a la superposition. Et ça, ce travail-là, ça doit être quand même un travail assez minutieux, parce que des fois, c'est tout juste une petite bande fine qu'on va voir d'une languette dans le fond. Donc, est-ce que vous accordez justement beaucoup d'importance à cette superposition-là, à la manière de faire vos compositions, ou c'est plutôt instinctif?
Bien, il y a beaucoup d'instinct, mais c'est une attention et qui est continue. Et c'est aussi avec le temps, la confrontation avec ce type de composition-là fait en sorte que comme en peinture, en peinture, on va revenir sur des espaces qu'on ne veut plus voir sur le tableau, on va repeindre par-dessus. Là, je mets d'autres matières, d'autres morceaux de toile ou de carton ou ce que vous voulez par-dessus. Donc, il y a une épaisseur qui se rajoute à la composition, ce qui est un plus, en tout cas, quant à moi, pour ce qui est présenté chez la CERT pendant le prochain mois.
Puis dans certaines œuvres aussi, vous venez ajouter, je ne sais pas si c'est vous qui le faites ou si c'était directement sur l'étoile, mais des grands empattements très longs, là, directement de peinture à même le tube.
Oui, bien toute la couleur, la matière qui est, que ce soit de la... J'utilise du latex ou même de l'alkyde, de la peinture à l'huile et tout ça que les gens utilisent chez eux, et des matières récupérées, des vernis à plancher et tout ça. Et je verse carrément sur les toiles. J'utilise très peu de pinceaux. Et quand vient le temps de mettre des traits aussi, c'est de la peinture directement du tube, comme vous l'avez mentionné.
Puis ça doit être amusant quand même quand quand vous préparez des toiles comme ça. Est-ce que, j'imagine, vous versez directement, comme vous dites, vous travaillez directement avec le tube. Est-ce que vous pensez à des détails ou vous faites comme une grande composition d'ensemble, puis après on coupe?
Non, je pense à aucun détail. Je fais beaucoup de matière et ensuite je travaille avec la matière qui m'a été... qui est né pendant le travail.
Puis il y a quand même différents travaux, là. Des fois, carrément, la peinture est dégagée complètement de son support. On voit l'épaisseur.
La peinture, excusez-moi, j'ai mal compris.
J'ai dit, des fois, sur certaines languettes, on voit carrément que la peinture est dégagée de son support. Là, on a tout juste la couche de peinture qui est collée comme ça sur le collage. Donc, ça doit. En fait, je parlais des expérimentations, tout simplement. Je disais que ça devait être assez intéressant à faire, de jouer justement avec la peinture, la décoller ou la découper, tout ça.
Oui, bien, ce que vous parlez, c'est des fragments de peinture qui a séché, comme des croûtes de peinture, vous voulez dire.
Oui, c'est ça.
Oui, bien, il y a aussi ça quand on travaille, comme je travaille sur des grands formats ou sur des grandes surfaces, si vous préférez. Comme je jette la peinture, il y a des éclaboussures, la peinture en séchant craque, tombe. Comme je la triture beaucoup, ben il y a ces fragments-là qui s'entremêlent parmi les débris à l'atelier, et je récupère ces choses, ces fragments pour recomposer avec. Donc, je fais pour détruire et recomposer ensuite.
Et voilà, ben, Denis Pellerin, merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Puis, l'exposition vient tout juste de commencer chez la CERT. Donc, on a jusqu'au 15 décembre pour voir les œuvres récentes de Denis Pellerin. De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute un extrait de la pièce Maya sur les ondes de CKRL. Thank you. Et voilà, c'était le dernier extrait de l'album Pléiade de l'artiste belge Crank que Simon Roy nous suggérait. Je répète encore l'invitation à aller consulter notre site internet, l'aérospatiale.wordpress.com. Les liens pour le téléchargement gratuit pour l'album seront là également. Raymond Poirier mettra les liens pour la revue de presse, pour les articles, les entrevues, tout est là. Et également, si ça vous intéresse, ben, il faut toujours venir nous voir sur Facebook. Ça nous fait toujours plaisir d'être en interaction avec vous. Petite semaine au niveau des vernissages, enfin, ils ont tous eu lieu vendredi, samedi et dimanche dernier, mais quand même, vendredi prochain à 17h, une exposition dont on aura l'occasion de reparler la semaine prochaine. C'est Kaléidoscopie, une exposition de Catherine Blanchet, jeune artiste de Québec, et de Paul Béliveau, un artiste quand même assez reconnu à l'international. Donc, une exposition conjointe. J'ai bien hâte de voir la chose. Également, si vous commencez déjà à penser à votre magasinage des fêtes, de toute façon, les fêtes, hein, ça commence après l'Halloween, mais si vous voulez avoir des idées de cadeaux originaux et intéressants, bien, il y a une foire de Noël qui est présentée à la Fabrique samedi prochain, j'imagine que c'est en après-midi. Donc, au profit des finissants en art visuel, des dessins seront en vente de professeurs, d'artistes et d'étudiants. Également, tant qu'à être à la Fabrique, bien, vous pouvez toujours passer au vernissage de Guillaume Cloutier en apesanteur qui est présenté au Cercle. C'est déjà tout pour l'émission. Je vous souhaite une excellente semaine. Je remercie fermement Jacques Gignac et je vous laisse entre très bonnes mains avec Gilles Chaumet et Folk d'Amérique sur les ondes de CKRL.